Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
Comme tous les soirs, les dimanches soirs, dimanche est le jour charnière entre une semaine qui s'écoule et une semaine qui commence, et l'occasion pour nous d'examiner les petites et les grandes phrases politiques sur Europe 1 avec ce soir Gérard Carrérou et Catherine Ney. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Pierre.
La semaine commençait par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui voulait lancer des troupes au sol en Ukraine. Vladimir Poutine lui a répondu en mode Armageddon, ce qui a totalement isolé le président français, on peut dire, Gérard Carrérou.
Ça oui, certes, il a été isolé. Mais, si vous voulez, en dépit de toutes les explications, on en a entendu toute la semaine, des exégèses, voire même quelques rétro-pédalages, ici ou là, Tout bien considéré, moi je pense que ce n'est pas une déclaration responsable pour un chef d'État. J'ai pas dit une déclaration irresponsable, mais je pense qu'elle n'était pas responsable, en tout cas à ce moment.
Pourquoi?
Et devant le public. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme dirait notre ancien ministre depuis longtemps déjà, mais toujours observateur éclairé Jean-Pierre Chevènement, les Français n'ont pas élu Monsieur Macron, président de l'Ukraine. Ils l'ont élu président de la France. Or là, cette déclaration qui consiste à dire, il faut tout faire pour que la Russie perde, ne gagne pas cette bataille, et pour que l'Ukraine puisse effectivement s'en sortir, c'est comme si on était le président de l'Ukraine, comme si l'Ukraine c'était nous.
Franchement, donc il fait du zèle d'une certaine manière.
C'est pas le cas. Oui, il se place dans les quelque part dans une lignée d'ultra. On disait autrefois pour les Américains quand ils étaient les extrêmes comme ça, on les appelait les faucons. C'était les faucons américains. Là, il se place le président français comme une sorte de faucon français. Et la meilleure preuve, c'est que tous les Européens, il y aurait pu en avoir un, deux, trois. Zéro pour dire il a raison, il faut s'interroger sur ce qu'il a dit et aller dans son sens.
Même les Polonais qui à une époque avaient dit l'Ukraine ne s'en sort pas toute seule, on ira à sa place lutter contre la Russie. Catherine Ney, sur ce point.
Oui, enfin, là c'est vrai que le discours présidentiel connaît un grand virage par rapport à il y a deux ans au début de la guerre où il disait à ses homologues qu'il fallait ménager, qu'il ne fallait pas humilier,
la Russie.
Bon. Mais à l'époque, il pensait qu'avec un discours, avec son charme, il arrivera à convaincre. Or, il a tout à fait compris qu'il a écouté ceux qui connaissent bien la Russie et qui savent aujourd'hui que le président Poutine ne connaît que la force et que depuis 3 mois, la France est victime de cyberattaques importantes. Des entreprises, des cabinets d'avocats, d'architectes sont tout d'un coup privés de leur service informatique, ce qui crée de gros dégâts. On n'en parle pas, mais il y en a beaucoup.
Des fuites de données.
On sait des fuites de données. On sait que toute la campagne sur les punaises de lit, d'ailleurs, dont Poutine s'était gaussé pour dire que la France n'était pas tenue, ça a été lancé par des... Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, tout l'art de la guerre repose sur la duperie, disait le chinois Sun Tzu, je crois. Donc, Emmanuel Macron, il sait qu'il faut se réarmer, il faut se réarmer au moins en parole face à la Russie. Donc, lundi, il a quand même réussi, pour une réunion à l'Ukraine, à faire venir 24 ou 25 des chefs d'État et de gouvernement. Il y a l'Italienne qui n'est pas venue, je crois, Viktor Orban n'était pas là, enfin j'en suis pas sûre, mais l'Italienne j'en suis sûre. Bon. Et ça s'est plutôt bien passé, on a discuté ensemble, les Européens ont vu que leur volonté d'aider l'Ukraine était stoppée, parce que la production pour produire, quand on est depuis 40 ans en économie de paix, et qu'on veut se présenter les dividendes de la paix, on ne se prépare pas à la guerre. Et que là, on arrive à un moment... Donc, ils se sont mis d'accord pour acheter des munitions hors Europe pour fournir à l'Ukraine, notamment, je ne sais pas, au Pakistan, à l'Inde, enfin, je ne sais pas, et que c'est par le biais de la Tchécoslovaquie. Bon. Et puis, tout s'était plutôt bien passé. Puis, il y a la conférence de presse et une question d'un journaliste ou d'une journaliste de Bloomberg qui lui demande « Et est-ce que, puisque vous voulez aujourd'hui que la France, que la Russie, l'impossibilité de gagner, est-ce que vous pourriez jusqu'à envoyer des troupes ?» Et donc, après avoir répété cette fois qu'il fallait absolument créer la défaite de la Russie, il a dit rien n'est exclu. Il n'en a pas dit plus. Il n'en a pas dit plus. Mais aussitôt, ça a été interprété. Moi, je dirais qu'il a voulu faire de la dissuasion, hein, de la propagande de guerre afin de montrer à l'ours russe que lui aussi peut montrer, pendant que l'ours russe dit qu'il y a le nucléaire possible, et ben lui répond attention, il y a des troupes. Et ça a bien marché parce que justement il y a eu des réactions très violentes à Moscou. Voilà. Oui. Mais seulement et bien avec le président Macron, c'est comme ça, une déclaration comme ça, ça se prépare.
Ouais.
Et ça ne, même en conférence de presse, voilà,
déclaration tellement violente que, enfin, Poutine n'avait jamais employé des mots jusqu'à présent comme on risque la fin des civilisations. Au début, il avait effectivement dit que nous avons des armes.
Mais et nous nous en servirons.
Format Armageddon, c'est quand même la première fois. Effectivement, il était rouge colère, l'ours russe, comme vous le dites, pour reprendre vos mots. Gérard Carreau, qui n'est pas un ours.
Je partage la première partie de ce qu'a dit Catherine. Qu'il s'agisse d'un avertissement pour dire attention, il y a un risque. Et c'est vrai qu'il y a un risque, parce qu'on était parti l'été dernier, on était encore sur attention, vous allez voir ce que vous allez voir, la contre-offensive ukrainienne, ils vont quasiment gagner la guerre. Mmh. On n'est plus dans la même situation. Sur le terrain, aujourd'hui, c'est le contraire, les Ukrainiens sont en difficulté. Donc, que le président de la République lance une sorte d'avertissement aux Européens, très bien. Tout ça, oui, très bien, on est même... officiellement, on est pour la victoire de l'Ukraine. Enfin, en tout cas, que l'Ukraine puisse garder son territoire qui a été envahi par les Russes. Donc ça, c'est une chose. Mais envoyer des armes, envoyer des munitions, envoyer des avions, tout ça, oui, c'est bien, et ce n'est pas de la co-belligérance, c'est-à-dire de la participation active à la guerre.
Même s'il y a des formateurs, même s'il y a des gens sur place...
Oui, ça fait partie, disons, du soutien. Mais la co-belligérance, c'est précisément ce que...
C'est prendre une arme et tirer.
Le président américain, qui pourtant n'est pas un foudre de guerre, on se demande même s'il sera réélu, Biden, il a dit, dès le premier jour de la guerre, il a dit... Ok, on va soutenir beaucoup, et ils l'ont montré par les milliards de dollars, mais no boots on the ground, pas de soldats sur le terrain. Et c'est de rester la ligne rouge des Américains. Et tout d'un coup, Macron nous dit, ah, mais attention, dans un cadre de dynamique, alors là, on est dans la dynamique, on se dit, ouh, dans la dynamique, on pourrait très bien aller jusqu'à des soldats sur le terrain. C'est ça qui a provoqué le scandale. Or, il avait prévenu personne. Mmh. Et c'est bien de faire des coups. Les coups, les journalistes en font de temps en temps, les hommes politiques aussi. Mais de temps en temps, ça leur revient en boomerang.
On lui a refermé le clapet assez vite, parce que Olaf Scholz a été catégorique, et on avait passé le sonore d'Olaf Scholz sur Europe 1 en disant qu'il n'était pas question d'envoyer quiconque. Idem pour le président néerlandais. Et puis alors, Catherine, il y a quand même cette conversation d'officier allemand sur une possible destruction du pont de Kerch, qui est le pont qui relie l'Ukraine à la Crimée.
Oui, non, mais ça prouve que les états-majors discutent entre eux sur ce qui serait possible de faire pour aider l'Ukraine. Et c'est vrai que casser le pont de Kerch,
c'est intéressant. Hein, c'est une information qui est sortie par LCI, où on entend effectivement 4 personnes ou 3 personnes parler allemand. Au pire, on arrivera à faire un trou dans le pont, mais on n'arrivera jamais à le faire sauter.
Oui, mais c'est sorti par LCI, mais ça venait de... Et ça vient de Russie.
Est-ce que c'est un fake,
j'ai pas eu assez.
Moi, je vous prends 3 acteurs allemands. Je vous fais faire une conversation et puis on peut faire la même chose.
J'ai pas assez d'informations encore sur le sujet pour répondre. En tous les cas, le chancelier Scholz, lorsqu'il a dit aucune troupe au sol, aucun soldat ne sera envoyé, ni par les États européens, ni par les membres de l'OTAN. D'ailleurs, comme si c'était lui le chef de l'Europe et de l'OTAN, hein, alors que lui, il peut rien faire sans son Parlement. C'est ça la différence avec Emmanuel Macron. Mais en tous les cas, je crois aussi qu'on a assisté là à une grande guerre des égos. Parce que entre Scholz, qui a une coalition compliquée et qui est pour freiner et qui rêve toujours, qui a un rêve, c'est que les États-Unis continuent à être le grand protecteur de toute l'Europe, le grand bouclier, qu'un jour il y aura une paix, on retrouvera du russe, du gaz russe. Enfin, je sais pas, c'est ça, sûrement son idée. Et Emmanuel Macron, qui lui, après avoir été celui qui voulait ne pas humilier Poutine, et maintenant celui qui est le plus prêt à appuyer sur le frein. Je n'irai pas aller jusque... parce que comme il a dit, moi j'ai pratiqué l'ambiguïté stratégique. Voilà, c'est l'ambiguïté
stratégique. Mais ce qui n'est pas une ambiguïté, mais une dure réalité, c'est quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, il n'y aura pas en Ukraine de victoire, je parle de l'Ukraine, de victoire ukrainienne, si les Américains se détournent de ce pays. Or, et c'est là que l'argumentation du président Macron est un petit peu dérisoire, c'est qu'aucun pays européen n'est prêt militairement, ni militairement, ni psychologiquement, à faire une guerre, une vraie guerre, hein, c'est-à-dire à mettre la machine, comme on le faisait en 1942-43 dans certains pays, du côté, par exemple, du côté des Américains, où on a produit des matériels considérablement. Personne n'est prêt à faire ça, et si les Américains, et or l'équation américaine est simple, dans les mois qui viennent, ou c'est Trump qui probablement va se détourner, ou c'est Biden qui de toute façon va aussi se détourner, peut-être plus élégamment, si l'on peut dire, ou plus modérément.
Mais le résultat sera le même.
Mais le résultat sera le même, et on ne gagnera pas la guerre d'Ukraine si les Américains s'en détournent.
Alors, en ce moment, en France, il y a aussi le sujet des européennes. On vous en parle régulièrement sur Europe 1. Aujourd'hui, grand meeting de Jordan Bardella qui, devant 8000 personnes à Marseille, dénonce l'effacement de la France, le grand effaceur Emmanuel Macron, a un discours politique sur l'Europe, mais qui est très centré sur la France, avec voilà une ne pas oublier la France, alors que voilà il y a une côté très nous sommes il y a eu des punchlines très très centrées sur la France et donc pas forcément sur l'Europe. Et parallèlement, ben on a Madame Valérie Ayé qui a été nommée cette semaine pour conduire la liste Renaissance. Alors qui, selon mon confrère Gilles Boulot, qui l'a reçu, je crois, le premier pour sa première télé jeudi soir, lui a dit « Vous arrivez avec 12 mois de retard ». Hier, Olivier Dussopt, ici même à la place de Gérard, disait « Oui, mais enfin, elle a 5 ans d'avance parce qu'elle elle connaît très bien les dossiers, elle est dans l'Europe, elle sait très très bien faire mieux que les autres ». Est-ce que ce déficit, j'allais dire, de notoriété publique est un problème pour une campagne aux européennes, une élection qui elle-même, j'allais dire, a un déficit de notoriété en France?
Catherine. Valérie Ayé, oui, bon, qui a montré justement chez Gilles Boulot que la parole n'était pas forcément son langage, en tous les cas, a été...
Ça veut dire quoi?
Elle a bafouillé, elle n'était pas...
Il y a 5 millions de téléspectateurs, elle était peut-être un peu...
Elle était émue, mais voilà. Donc, en tous les cas, c'est quelqu'un qui est député depuis, qui a déjà derrière elle six ans de vie au Parlement européen, qui, elle, contrairement à Jordan Bardella, était tout le temps présente, a beaucoup travaillé, elle s'est même fait elle a pris la suite, elle s'est fait élire à la tête du groupe Renew, alors que ses journées qui partait Stéphane pour aller au Quai d'Orsay, Stéphane Séjourné lui disait de pas y aller, que c'était risqué. Elle s'est imposée, ça veut dire qu'elle a déjà une réputation au Parlement européen. Bon, donc,
et qu'elle est une bonne réputation.
Une bonne réputation de quelqu'un qui travaille. En plus, en crise agricole, on dit que ses parents, elle est fille d'agriculteur de la Mayenne, on dit qu'elle sait traire une vache et conduire un tracteur. Bon, très bien, mais dire que elle a le temps d'apparaître comme un leader, mais de toute façon, comme dirait un de nos amis, la tête de liste qui sera, la tête de liste sera moi, aux européennes, avait dit Emmanuel Macron. Donc c'est lui qui fait campagne contre le Rassemblement National, qui fait campagne pour l'Europe, ça on peut dire que c'est son ADN. Donc, ça sera plutôt...
Donc, elle n'est qu'un prête-nom, d'une certaine manière.
Pour l'instant, peut-être qu'elle va... Je ne dirais pas ça, mais c'est vous qui concluez un peu vite. Mais enfin, pour l'instant, il faut qu'elle gagnerait à être connue. Voilà.
Gérard Carrère.
Oui, je suis d'accord. C'est une élection subliminale. En fait, on aura d'un côté... On aura Bardella d'un côté, on aura Madame Ayé de l'autre côté, et quelques autres figurants qui feront de la figuration.
Des figurants.
Figurant, puisqu'aucun pratiquement ne dépassera la barre de 10%.
Sauf s'ils se mettent d'accord. Alors, on peut croire au miracle, mais si vous ajoutez les trois partis de gauche, on arrive au score de Bardella.
Mais enfin, en tout cas, plus que jamais, cette élection européenne sera une élection franco-française. Plus que jamais. Parce que, en fait, c'est une sorte de répétition générale, 2 ans et demi avant, de la présidentielle. Avec d'un côté toutes les forces macroniste qui essaye de se macroniste élargi à une partie de l'ancien électorat socialiste d'un côté, et les forces, disons, populistes, pour résumer, ou certains diront d'extrême droite s'ils préfèrent, mais en tout cas populistes, c'est-à-dire tous les autres, de l'autre côté, sous la bannière Bardella. Alors la chance de ce camp populiste cette fois-ci, c'est d'avoir Bardella, parce qu'il est jeune, parce qu'il est nouveau, etc. Bon, alors Madame Hayé, on dirait, elle est jeune aussi, elle est nouvelle aussi.
Ils sont tous très jeunes, bon, quand on regarde le panel.
Mais en fait, on jouera...
Marie Toussaint, ils sont tous très jeunes, ils ont entre 30 et 35 ans.
Oui, mais en tout cas, ça sera une bataille binaire. Ça sera une bataille binaire. Elle laissera peu de place pour les autres.
Sur cette élection européenne, voilà ce qu'on pouvait dire. Ce qui n'empêche, alors on a parlé effectivement du fait que Madame Hayé savait traire une vache et conduire un tracteur. Il y a la colère des agriculteurs qui, on a eu les chiffres tout à l'heure, un peu plus de 600 000 visiteurs au salon de l'agriculture, malgré ce salon qui n'a pas été comme les autres. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu une édition aussi mouvementée avec une apparition des agriculteurs en amont de ce salon, une colère qui a été vraiment poussée à son paroxysme. Il y a eu une victoire quand même sur le lait, 425 euros les 1000 litres de lait au lieu de 420. Cela dit, ça se termine comment? Un peu en eau de boudin, ce salon?
Ça ne s'est pas terminé, puisqu'il y a un rendez-vous dans 3 semaines. Mais le président de la République, pour se sortir de cette... C'est pas difficile à donner un rendez-vous aux agriculteurs dans 3 semaines, en disant après le... Hop. Alors, est-ce que dans 3 semaines, il va pouvoir sortir des choses? C'est vrai que moi, l'accord Lactalis, c'est intéressant pour le type qui produit du lait, là, avec ses vaches, etc., et qui est obligé de sortir ses litres de lait chaque jour, en perdant quelques centimes par rapport au prix marché. Il est écœuré, il en a marre, etc. Donc, c'est un petit truc, quoi. Est-ce que le président de la République, ayant travaillé 3 semaines de plus avec son état-major, pourra sortir des mesures? Parce que moi, je suis convaincu que la colère... Ces gens-là, vous savez, les paysans, on est tous un peu des paysans, quelque part,
bien sûr,
sans remonter. Il n'y a pas besoin de remonter à 1000 ans. Hein, on
bien
se retrouve
sûr.
Facilement avec des familles, etc. Ces gens-là... Ils sont républicains, ils sont disciplinés, ils font pas... Alors, il y a eu les chemins, on peut me dire, mais disons, dans la période des derniers siècles, ce sont des gens qui sont calmes, c'est des gens plutôt bien, hein, on dirait, globalement. Quand ils se mettent,
et
quand ils se mettent en colère, c'est pas une colère comme ça éruptive pour 3 jours ou pour 2 semaines. C'est des gens, et là
Et après, ils ne lâchent pas. Hein.
Voilà, c'est ce que je crains. Je crains que effectivement cette fois-ci,
un résultat.
Si on leur donne encore des fariboles, eh bien ça tournera pas bien.
Catherine.
Oui, parce que je pense qu'ils vivent leur temps en travaillant beaucoup, mais non seulement à remplir des paperasses pour tout obtenir, on leur met des bâtons dans les roues. Il y a des contrôles en permanence, quasi policiers, par l'administration de l'agriculture en France. Il y a tout ce qu'on a dit sur l'accumulation ou les interdictions sur les phytosanitaires, enfin tout pour
les
contrarier la production. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de suffisance alimentaire, la France doit importer, quand on importe 48% de ses légumes et de ses fruits, non mais je veux dire, et pareil pour les poulets, enfin tout ça, on marche sur la tête. Ça a d'ailleurs été le début de leur campagne, quand ils mettaient l'inversion, vous savez, des plaques des villes à l'envers. Bon, là, je pense que le président dont ils attendaient au salon de l'agriculture un discours qui allait les apaiser, qui montrait surtout un cap pour les rassurer, a voulu monter ce débat, parce qu'il dit que c'est ses conseillers, mais enfin, c'est lui qui avait donné, qui avait suggéré, quoi. Mais vraiment faire venir les ennemis, ceux qui chahutaient tous les congrès, puis tous les salons de l'agriculture, et puis leur conduite à Sainte-Soline, où 47 gendarmes avaient été blessés, qui étaient arrivés avec, enfin, qui ont saccagé les terres alentour des bassines, enfin, qui sont des vandales et des hors-la-loi. Bon, pensez à les inviter sur un ring avec les agriculteurs pour essayer de trouver un consensus. Enfin, ça, c'est vraiment de la provocation. C'est c'est de l'enfantillage. Donc, alors, il s'en est tiré, comme le dit Gérard, avec il y aura une loi dans 3 semaines, et puis, c'est sorti de son chapeau les fameux prix planchers, dont les agriculteurs ont dit, tiens, il va falloir encore qu'on fasse des paperasses pour la plupart, voilà, et que, alors que son ministre avait dit que c'était une idée absolument idiote et qui était une proposition de LFI. Mmh. Donc, là, il a raté quand même. Son rôle de père de la nation et père du monde agricole qui est en perdition parce qu'il y avait 1 million d'agriculteurs il y a 20 ans, maintenant ils sont moins de 400 000. Donc, et dans 10 ans, ils seront combien?
Mais Catherine, vous qui, fut un temps, auriez voulu être ministre de l'Agriculture, est-ce qu'il n'aurait pas dû, justement, vous avez dit qu'il n'a pas laissé parler Marc Fesneau, qui lui est d'une autre obédience, puisque c'est l'obédience de François Bayrou, est-ce qu'il aurait dû, justement, laisser faire le job par Marc Fesneau? Il y a cette omniprésence d'Emmanuel Macron qui fait que il supplante en fait ses ministres et ses ministres régaliens.
Il veut montrer toujours qu'il en sait mieux plus que les autres. Et d'ailleurs, même les agriculteurs qui sont les plus rétifs, y compris à sa personne, sont quand même bluffés. Parce qu'il vient l'an dernier, c'était pendant 14 heures. Bon, et on le voit qu'il parle. Mais ce qu'il adore, c'est se faire héler par un quidam, par un agriculteur, par celui comme ça qu'il trouve sur son chemin, qui lui pose une question sur l'agriculture. Et il a réponse à tout. Voilà, c'est un quiz. C'est le quiz de l'agriculture.
C'est Trivial Poursuite.
Oui, Trivial Poursuite. Aussi bien sur les jauges des tracteurs que les règlements du concours général de l'agriculture, que le taux des pesticides dans tous les pays européens, il sait tout sur tout. Mais une fois qu'il a tout sur tout, ça ne fait pas une ligne, ça ne fait pas
ça
un
cas. Ça ne fait pas avancer.
Voilà.
Mais il est exceptionnellement doué, ça c'est clair, on l'a déjà dit, on ne va pas lui enlever ça. Hein. Il peut faire des erreurs et tout, mais il est doué, on ne peut pas enlever. Il est doué, mais il est doué dans une logique. Sa logique mondialiste fait que pour lui, aujourd'hui, ce n'est qu'une étape, mais demain, tout le monde doit pouvoir se nourrir sur le marché mondial à des prix compétitifs en allant acheter qui des fruits venant de l'autre bout du monde, qui des légumes ailleurs. Et il s'est sorti de sa tête l'idée d'une agriculture. C'est pour ça, quand il parle de souveraineté agricole française, il ne peut pas y croire, il n'y croit pas.
Il fait parler ses ministres encore ce matin dans le JDD à Franck Riester, qui dit les accords internationaux, donc les accords de libre-échange, nécessaires.
Oui.
Donc il y a la souveraineté. Enfin, cela dit, Emmanuel Macron, d'un côté, souvenez-vous, et effectivement, il a ce que vous dites. Et puis, quand il y a eu ce grand débat improvisé avec les syndicats agricoles, il a dit, si vous voulez fermer les frontières, bon courage. Parce que si on ferme les frontières, on n'exportera plus rien.
Non, mais c'est vrai
ça,
aussi.
Ça, c'est du bon sens.
C'est vrai aussi.
Mais encore
faut-il donner aux agriculteurs les conditions d'export que les autres pays ont grâce à des règlements phytosanitaires qui sont quand même plus doux et qui ne sont pas privatifs, qui ne sont pas de liberté. Enfin, et surtout de production. Je veux dire, il n'y a plus de cerises dans le Sud parce que... à cause d'une chenille, je sais pas quoi, et donc on importe toutes les cerises l'été de Turquie et de Turquie qui emploie ce qui est interdit en France. En fait, tout est comme ça, et c'est ça qui est insupportable aux agriculteurs.
C'est la bonne politique agricole pour l'Allemagne, la sienne, c'est-à-dire celle qui permet à un pays qui n'était pas une grande nation agricole, de l'Allemagne, c'était pas une grande nation agricole, et aujourd'hui elle peut, dans les accords de libre-échange, elle exporte, même si c'est plus difficile, de toutes ces bagnoles, etc. La France, ses exports, effectivement, si on résume les choses, elle est restée un pays agricole. Alors, est-ce que ça va disparaître? Moi, je crois que c'est foutu. Malheureusement, je crois qu'il y aura, quand on se verra pas, parce qu'on sera peut-être ailleurs, on sera en haut, mais. Je pense qu'il y aura même plus de 100 000. Il y en aura 100 000 paysans dans 20 ans. C'est fini. Malheureusement, c'est fini. Moi, j'en suis très nostalgique.
Une dernière chose, vous aurez remarqué que le Parlement se rebiffe, ou en tout cas se rebelle, parce que avec cette omniprésence du président de la République, il n'y a plus de texte à l'Assemblée. Gabriel Attal, d'ailleurs, est là également. Et c'est d'ailleurs à lui qu'on s'en prend. C'est assez inédit, ça, ou ça s'est déjà passé sous la Ve République, je vais encore reprendre le terme de jupitérien, mais c'est des exécutifs qui marchent par décret, et puis finalement le Parlement se retrouve avec juste des petits textes,
La fin d'un régime parlementaire, parce que la Ve République, quoi qu'on dise, c'est pas un régime présidentiel. tel que l'a voulu le général de Gaulle, c'était quand même un régime parlementaire. Mmh. Bah, avec, après l'élection du président au suffrage universel, qui a un petit peu changé le contenu, mais c'était un régime parlementaire. Aujourd'hui, c'est plus un régime parlementaire, c'est un régime de plus en plus présidentialisé.
Oui.
Voilà. Et donc, on peut très bien... Et il y a d'un côté le président avec tous ses pouvoirs, et son entourage, son oligarchie, et puis de l'autre côté, il y a les juges. Et puis entre les deux, il n'y a plus de place pour le Parlement. À quoi ça sert le Parlement ? À faire des hommages, et à faire entrer éventuellement dans la Constitution coup l'IVG, demain je ne sais pas quoi.
Ouais, et puis la Ve République a été faite pour avoir une majorité. Elle ne fonctionne pas avec ce qui est devenu aujourd'hui la proportionnelle. Et,
donc on en revient à ça. C'est-à-dire que s'il y avait eu une majorité absolue... On aurait un régime parlementaire qui fonctionne, et là, du coup, on met le Parlement sous cloche, d'une certaine manière.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Alors, c'est aussi quelque chose qu'on devrait faire remarquer aux députés et aux sénateurs qui se retrouvent au Congrès à Versailles affaire qui est, bien sûr, éminemment importante, mais là, en l'occurrence, ça on n'y a pas pensé, on n'y pense pas.
On n'y pense pas, et là, bon, demain, on va... changer un article de la Constitution, parce que c'est pas une grande réforme constitutionnelle, mais au moins ça permet voilà, il y a une victoire présidentielle. Mais avec la Constitution, faut quand même faire très très attention. Et là, on se demande, la dernière grande réforme, est-ce qu'il fallait dire que un président, il n'y a pas plus de deux mandats, il peut pas se représenter, donc. Faut voir. Est-ce que c'est bien que les textes qui viennent désormais en discussion soient ceux qui sont sortis des commissions? Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un projet gouvernemental a 50 articles, eh bien, on se retrouve à la lecture avec 200 articles et que ça devient des lois qui sont de plus en plus compliquées, inapplicables et qui,
Merci.
On complique Catherine. Les choses au lieu d'éclaircir le fonctionnement.
Catherine et Gérard Carrero pour le club Europe 1 soir week-end tous les dimanches soirs dans notre émission. Merci à vous. Je vous signale également que vous retrouvez Stéphane Bern pour Historiquement Vôtre du lundi au vendredi de 15h à 16h. Et il sera question justement demain de Claude Nougaro, l'homme du jazz et de la Java. Très bonne soirée sur Europe 1. Dans un instant, le journal est juste après l'émission littéraire de Nicolas Carreau, La Voix est libre.